Et nous, souvent, on comprend la Bible, souvent en surface. Mais avec lui, on va comprendre dans les profondeurs. Et c'est toujours une bénédiction. Jamais, 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 j'ai été déçu à travers les enseignements qu'il nous a apportés. Alors, je vais lui laisser la place. C'est un honneur. Hein. Je trouve que c'est vraiment un honneur parce que, bon, il est tout très simple de cœur. On a une relation de cœur. Mais je dis, c'est un honneur de recevoir des hommes, femmes comme ça, qui sont sur le terrain d'Israël. Et que nous, en tant qu'Occidentaux, Français, on soit là pour les servir. Quoi. On est là pour les servir, parce qu'en les servant, nous servons Israël. Ah, c'est clair, derrière eux, bien sûr il y a eux, bien sûr il y a le ministère, bien sûr il y a l'église de Tibériade, bien sûr il y a ça, mais derrière il y a aussi tout Israël. Et c'est pour ça que c'est un honneur que Dieu nous fait, de se frotter à ce genre de ministère et de bénéficier de la bénédiction de ce genre de ministère. Alors, je ne sais pas quoi te dire de plus, sauf que c'est un ami de cœur, un frère de cœur et un ami de cœur. Alors, pour Michel, alors là, c'est un cœur qui est énorme. Elle est remplie de douceur et très sensible aussi au Saint-Esprit. Et c'est un honneur de vous accueillir dans cette église là d'Aubergenville. Et un grand merci. Il y a aussi une autre Michel. Hein. Ben oui, hein. André, Michel, un grand, grand merci de nous accueillir. Et merci à vous de consacrer ce temps aussi pour venir écouter. Hein, que le Seigneur vous bénisse et soyez à l'écoute comme dans la parole, souvent Dieu dit Israël, écoute. Écoute Israël. Et j'aime dire Église. Église, écoute. Écoute. Il y a quelque chose que Dieu va vous communiquer ce soir. Écoute. Pas simplement entendre. Écoute. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je sais que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va te porter et t'aider pour, quand tu ouvres la bouche, sortir les oracles de l'Éternel.
Amen. Alors tout d'abord, je vous apporte un grand shalom de l'Assemblée de l'Étoile du Matin à Tibériade. Et nous sommes heureux d'être bien là en famille avec vous. Vous savez, dans la prière du Seigneur, le Seigneur nous dit de prier que ton royaume vienne. Mais il n'y a pas que l'Église qui prie ça. Même le peuple juif prie que le Messie vienne. Hein? Donc, eux, ils ne savent pas qui c'est. Alors, nous, on sait qui c'est, mais on prie pour que le Messie vienne. Et en fin de compte, c'est le même Messie. Alors, quand on l'évangélise des fois, quand on leur dit, vous savez, le Messie, c'est le même Messie, c'est Jésus. Hein, vous... Alors, ils me disent, bon, on verra ça. Hein, quand il reviendra, on verra. Je leur dis, mais quand il reviendra, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut décider. Alors, je vais commencer avec un verset de Jean, de l'évangile de Jean. Chapitre 2. Je crois que je vais avoir besoin d'un peu d'eau. Jean chapitre 2, au verset 28. Au verset 18, pardon. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et que vous avez appris, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, c'est un Jean. Ah ben mince alors. Ah, c'est un Jean. Ah ben oui, c'est un Jean. Oui, j'ai marqué Jean. C'est un Jean. Quand il dit c'est la dernière heure, bon, ça ne veut pas dire c'est la dernière heure, mais ça veut dire que dans la terminologie du royaume, vous savez, si un jour pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Une heure, c'est quand même moins que 1000 ans. Bon, je ne vais pas faire le compte, proportionnellement, je ne suis pas mathématicien. Mais ça voulait dire que pour Jean, le temps du retour du Seigneur était vraiment proche. Et même pour lui, il pensait que ça allait arriver, même pendant sa vie. C'était vraiment proche. Et il disait ça en se basant sur certains signes. L'un des signes, c'était, il nous le dit ici, il y avait plusieurs antéchrists. Plusieurs antéchrists, vous voyez l'esprit de l'antéchrist, et puis il s'est dit, on voit déjà les signes. Mais il y avait un autre signe qu'il voyait très bien. Et c'était que les Juifs commençaient à être sauvés. Et ça, c'est un signe des derniers temps. On va le voir. Hein. Et en voyant plusieurs antéchrists et les Juifs qui étaient sauvés, ils se disaient, nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Nous avons les signes de la venue du Christ. Alors, je vais vous montrer que, la Bible nous montre que le salut des Juifs, c'est un signe de la venue du Christ qui est imminente. Regardez dans Matthieu 13, dans Marc 13, versets 28 à 31. Instruisez-vous, il le dit à l'église, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été, entendez la venue du royaume. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, on va décortiquer ça. Le figuier, dans la Bible, est une analogie sur Israël. On le voit dans Osée chapitre 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Donc c'est la vigne. Nous savons que c'est aussi l'olivier. Hein. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Les premiers fruits d'un figuier. Et là, quand il nous dit, dans Marc 13, il nous dit une comparaison du figuier. Quand vous verrez que les feuilles poussent, qu'il est tendre, vous savez que l'été est proche, c'est-à-dire que vous savez que les figues sont mûres, qu'elles vont être mûres. Et donc, là, il parle d'Israël. Vous savez que les Juifs vont être mûrs, c'est-à-dire qu'ils sont mûrs pour le salut. Et il dit, c'est une leçon que vous avez à apprendre. Lorsque vous verrez que les Juifs commencent à être mûrs, c'est-à-dire qu'ils commencent à recevoir le Seigneur, ça veut dire, nous savons que Jésus est proche. Et donc, lui, il voyait ça. Il voyait déjà, par exemple, il y a Joseph, l'historien Joseph Flavius, qui nous dit que à ce temps-là, au temps de la première église, il y avait, rien qu'à Jérusalem, il y avait déjà 50 000 croyants juifs, hein, à l'époque. Et donc, on voit aussi dans Matthieu 23, du verset 37 à 39, lorsque Jésus s'approche de Jérusalem, regardez ce qu'il leur dit aux Juifs. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Il parle bien des Juifs, hein, dans l'histoire. Verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand vous direz, béni soit celui, Jésus, qui vient dans le nom du Seigneur, vous les Juifs, alors là, vous me verrez. C'est-à-dire que Jésus revient lorsque les Juifs l'acceptent comme Messie. C'est véritablement un signe des derniers temps. Et Jean voyait ça, et il se disait, hein, c'est un signe des derniers temps maintenant. Jean n'était pas dans l'erreur. Les choses s'étaient déroulées comme on l'a vu au début, c'est-à-dire la multiplication des Juifs qui recevaient le Seigneur, d'abord il y en a eu, vous savez, il y en avait 120, et puis après c'est passé à 3000, puis après 5000, et puis ça s'est étendu. Quand il y a eu les persécutions, ils se sont dispersés, mais en se dispersant, ils ont créé d'autres cellules, d'autres églises, etc., etc. Et donc ça s'est, je présume qu'il y a 2000 ans, c'était un mouvement qui s'étendait. Et quand Jean voyait ça, il se disait, ah, ça c'est le figuier. Les figues sont proches, les figues sont mûres. Donc, nous avons déjà, le Seigneur va arriver. Et il disait, nous reconnaissons que nous sommes dans la dernière heure. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé là. Regardez dans Romains 11, il y a une clé au verset 11. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils, les Juifs, ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, donc aux Français, afin qu'ils fussent, que les Juifs fussent excités à la jalousie. Donc, il y a là un mystère qu'il faut comprendre. Les Juifs ont dû tomber dans l'incrédulité, ils ont désobéi, hein. Mais c'était pour un but, c'était pour le but que les nations reçoivent le Seigneur. Paul, vous vous souvenez, est allé dans les nations, il a prêché l'évangile et l'évangile s'est étendu, s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, et donc l'évangile a été répandu. Mais il dit c'était pour un but. C'était pour le but suivant que les Juifs fussent excités à la jalousie. C'est-à-dire que l'évangile est passé, disons, prenons l'exemple des Français ou des Roumains ou des Anglais, etc. Hein, l'évangile est passé dans le monde qui est devenu chrétien, afin que les chrétiens excitent les Juifs à la jalousie. Pourquoi? Afin que les Juifs, les figues, soient mûres, reçoivent Jésus et que Jésus revienne. Vous voyez le plan de Dieu là. Le plan de Dieu, c'était que les Juifs soient excités à la jalousie. Et c'est pourquoi on voit dans Romains 9, 10 et 11, on voit le fardeau de Paul qui nous disait, donne-moi Romains 9, on va... Ah, cette petite Bible avec les petits... Ah, alors, pour de bons yeux là. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience ment. Rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème. Anathème? Anathème, c'est séparé, il dit séparé de Christ, c'est-à-dire aller en enfer. Séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, les Juifs, à qui appartiennent, etc., etc., etc. Donc, il était prêt à aller en enfer afin que que les Juifs soient sauvés. Pourquoi ? Aller en enfer, vous vous rendez compte ? Afin que les Juifs soient sauvés, pourquoi ? Pour qu'il y ait le retour du Christ qui établisse le royaume sur toute la, son royaume sur toute la terre. Vous comprenez ? Paul avait une vision extraordinaire, une vision du plan de Dieu, et il disait, pour que Jésus revienne, il faut que Jésus revienne, mais pour qu'il revienne, il faut que les Juifs soient sauvés. Il faut que les Juifs soient sauvés. Il faut que nous, nous excitions les Juifs à la jalousie. C'est-à-dire, comment qu'on fait ça ? Eh bien, on le fait par l'amour. Quand vous venez en groupe de chrétiens en Israël, et que vous allez dans l'hôtel, les Juifs, ils vont dire, mais si vous parlez avec des Juifs, ils vont vous dire, mais comment ça se fait que vous, chrétiens, vous venez en Israël avec l'amour d'Israël, avec l'amour du peuple juif? Parce que nous, on nous a toujours dit que les chrétiens étaient ennemis des Juifs. Hein? Mais vous êtes les seuls à venir avec l'amour du chrétien. Et ça, c'est un impact. Ça leur fait... Alors quand en 2006, par exemple, il y avait la guerre, et qu'il y avait des chrétiens qui venaient pendant la guerre, qui venaient pour soutenir le peuple juif et les encourager, alors là, les Juifs, ils ne comprenaient pas. Et c'était là une porte ouverte à l'évangélisation, pour que les Juifs reconnaissent que c'est Jésus qui a amené les chrétiens. Alors les chrétiens leur disent, ça ne vient pas de notre chair, c'est le Seigneur qui nous a dit, va vers mon peuple, va soutenir mon peuple. Ça n'est plus du tourisme, hein. C'est vraiment un appel de Dieu. Et de plus en plus, on voit des chrétiens qui viennent en Israël, et les Juifs commencent, d'ailleurs ils ont commencé depuis un moment déjà, à comprendre, et ils se disent, ah, donc il y a, oui c'est vrai, il y a des chrétiens qui sont contre Israël, mais il y en a de plus en plus qui sont pour Israël, qui aiment Israël, qui ont un fardeau pour Israël, et qui ont une vision pour Israël. Et c'est ça. Donc, si les chrétiens, il y a 2000 ans, avaient continué à exciter les Juifs à la jalousie, eh bien, les Juifs auraient été sauvés. Le Seigneur serait venu il y a 2000 ans. C'est pourquoi Jean nous dit, il semble que ce soit la dernière heure. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est une longue histoire, mais je vais la dire brièvement. C'est que en 70 après Jésus-Christ, si vous vous souvenez, les Romains, Titus, rentrent dans Jérusalem, ils brûlent la ville, ils brûlent le temple, et c'est le début de la dispersion des Juifs dans le monde. Et parmi les Juifs, bien entendu, les Juifs messianiques, sur ces entrefaites, l'Église de Rome avait pris l'hégémonie du christianisme, et l'Église de Rome était devenue l'Église de contrôle du christianisme dans la Mésopotamie. C'est une longue histoire, mais ils ont commencé à, si vous voulez, par ambition, parce qu'ils voulaient vraiment être les premiers, ceux qui tenaient le contrôle sur le christianisme, eh bien, ils ont commencé à montrer les premiers signes d'un antisémitisme chrétien. Et au lieu d'exciter les Juifs à la jalousie, voilà ce qu'ils disaient. Alors ça, c'est un des premiers pères. Vous voyez, on est très proche du temps de Jésus. On est en 150 à peu près après Jésus-Christ, donc 150 ans, hein, moins 30 ans de la vie de Jésus, donc 120 ans après, disons 120 ans à peu près, ou 110 ans après la première Église, on voit déjà les pères de l'Église qui disent, d'après Justin, les Juifs étaient un peuple maudit, qui n'avait pas accès aux promesses données à Abraham. Donc, comment voulez-vous évangéliser les Juifs si vous partez du principe qui n'ont pas accès aux promesses, ils sont maudits, ils sont coupés, terminés. Donc on ne va pas les évangéliser. Vous voyez la mentalité. Selon l'Église ancienne, les Juifs avaient été déshérités. Donc, à partir de ce moment-là, au lieu de continuer le processus d'évangélisation des Juifs afin que les figues soient mûres, hein, eh bien, ils ont arrêté ce processus. Ils ont dit, non, ils sont déshérités, on va porter l'Évangile aux nations. Et ils ont porté l'Évangile aux nations. Et c'est comme ça que les Juifs ont arrêté d'être sauvés. Et pendant 2000 ans, c'est ce qu'on a vu. On peut continuer à... Alors, si j'arrive à... C'est ici ou ici qu'il faut ? Ici. Voilà. Alors, Marcion, c'était pareil. Et alors, vous allez voir comment petit à petit, il part... Par un esprit d'antisémitisme, il voulait se démarquer du peuple juif. Alors, au début, bon, on a dit ils sont déshérités, ils sont maudits, mais après, il fallait commencer à donner une expression un peu plus tangible à ce qu'il disait. Alors, Marcion lui disait, il faisait la séparation entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Pour lui, l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est le Nouveau. Le Nouveau est vrai. L'Ancien Testament... Alors, il disait, l'Ancien Testament est inférieur au Nouveau. Et c'est encore resté dans l'esprit de certains chrétiens. Hein. Quand on parle de la Bible, l'Ancien Testament, c'est, vous savez, quand il y a des gens qui lisent l'Ancien Testament, ils commencent à Genèse, à Exode. Alors après, quand on arrive à Lévitique, ou par exemple Deutéronome, alors là, c'est pour les Juifs. On passe les pages, ça ne nous intéresse pas. Hein? Alors qu'il y a une grande richesse dans le livre de Lévitique, dans le temple, etc. Pour l'Église, justement. Mais lui, voilà ce qu'il a dit. Alors il n'avait pas trop compris apparemment, parce que quand on dit que dans l'Ancien Testament c'est un Dieu cruel, Dieu de bataille, c'est comme si il y avait le Dieu de l'Ancien Testament et puis après il y avait le Dieu du Nouveau. C'est pas le même Dieu. Ou alors c'est un Dieu qui a changé complètement, qui a fait volte-face. Alors vous rendez compte, quand on a un esprit comme ça, ça veut dire qu'on attends, on a pas trop compris la progression entre à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'a pas trop compris là. Hein, Marcion là, bon, il a échoué à l'examen. Alors après, bien entendu, il y a l'empereur Constantin. Tout le monde a cru que c'était un empereur chrétien, etc. Il n'est pas si chrétien que ça. Et il disait, il nous semblait impropre que pour une fête. Alors, il parlait de la fête de Pâques, parce que il y avait toute une polémique de la fête sur la fête de Pâques, surtout sur la date de la fête de Pâques. Et on va voir. Enfin, je peux vous expliquer très brièvement pourquoi c'est important. Nous devrions suivre les pratiques des Juifs. Hein, c'est déjà l'antisémitisme. N'ayons donc rien en commun avec cette détestable foule juive. Alors, la fête de Pâques, pourquoi c'est... Alors, il y avait des gens, comme Polycarpe, qui étaient des disciples de gens qui venaient de l'église de Jérusalem. Il y avait des juifs messianiques de la première église qui étaient allés à Rome et puis qui disaient au père de l'église à Rome, qui leur disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous écartez complètement des enseignements que nous avions reçus des apôtres à Jérusalem. Et, enfin, ou que nos pères ont reçus. Et il leur disait, alors, ceux de Rome disaient qu'il fallait changer la date de Pâques. Les Juifs le font à cette date-là, et bien nous, on va le faire à une autre date. Mais les Juifs le faisaient à cette date-là. Pourquoi ? Parce que c'était le premier mois biblique. Le premier mois biblique, on fait la Pâque. Pourquoi le premier mois ? Parce que c'est le début de l'année biblique. Le début de l'année, on fait la Pâque parce que ça veut dire que la Pâque, en fin de compte, c'est l'évangile. La Pâque, c'est l'agneau immolé, le sang de l'agneau, quand on le met sur notre cœur par la foi, par l'hysope, hein, Exode 12, eh bien, on a une nouvelle vie. C'est là où notre vie commence. Donc, c'est pourquoi ça devait être au début de l'année. C'était le début de notre vie spirituelle. Donc la Pâque avait une signification, la date de la Pâque avait une signification spirituelle. Et les juifs messianiques voulaient garder cette signification-là, mais ceux de Rome, pour se démarquer... Pardon ? Non. Oui, non, mais le premier mois biblique, c'est Nissan, c'est au printemps. Hein ? C'est au printemps. D'ailleurs, le printemps, c'est le début où tout fleurit. Hein, tout colle là, quand on le voit comme ça. Mais Constantin avait voulu tout chambouler et encore une fois, il se démarquait. Alors, il avait aussi changé le centre spirituel qui était l'emplacement du temple. Le temple, alors il a dit non, c'est plus le temple maintenant. Ça va être le tombeau du Christ. Le tombeau du Christ qui était vide. Et donc là, il a érigé une basilique et il en a fait le centre. Après, il y a eu le concile de Laodicée, vous connaissez sûrement, qui disait « Les chrétiens ne doivent pas adopter les pratiques juives et être oisifs le samedi, mais doivent travailler ce jour-là. » Cependant, ils honoreront le jour du Seigneur, dimanche, et en tant que chrétiens, devront, si possible, ne pas travailler ce jour-là. Vous voyez pourquoi c'est le dimanche en France, hein ? Mais dans la première église, ce n'était pas le dimanche, c'était le samedi. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir au samedi. Bon. Mais vous voyez comment il y a eu un éloignement de ce qui était original. C'est parce qu'on a voulu se démarquer. Puisque les Juifs sont déshérités, eh bien, on va complètement... Puisque les Juifs sont maudits, ils se disaient, nous, on ne veut pas être maudits, on va complètement se démarquer du peuple juif. Si toutefois, ils adoptent les pratiques juives, ils seront séparés de Christ. C'est-à-dire, anathème. Terminé. C'était l'Église qui prenait la décision de séparer ces gens-là de Christ. Et d'ailleurs, il y a eu des persécutions de l'Église de Rome vis-à-vis des Juifs messianiques qui étaient croyants, mais qui ne marchaient pas selon les directives de Rome. Et voilà comment il y a eu des tas de choses qui ont été changées dans la foi. Alors, on a commencé à changer les fêtes. Il y a des fêtes comme la fête de Tabernacle, par exemple, qui étaient pratiquées par l'Église de Jérusalem, et que d'ailleurs on voit dans l'avenir, dans le millénium, hein, pratiqué par les nations. Mais on l'a retiré à la place, alors on a mis la Noël. Enfin, j'ai rien contre la Noël, si c'est une occasion de donner l'honneur à Christ, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, vous voyez comment tout a évolué afin de changer. Et c'est comme ça qu'on a eu un antisémitisme qui s'est développé. Alors Saint Augustin est allé même plus loin. Il a dit « Les cérémonies juives sont mortelles aux chrétiens et doivent être bannies. Quiconque les pratique est voué à l'abîme du diable. La véritable image de l'hébreu est Judas Iscariote qui vend le Seigneur pour de l'argent. Le juif ne peut jamais comprendre les Écritures et il portera toujours la culpabilité de la mort de Jésus. » Le juif ne peut jamais comprendre les Écritures, ça veut dire ne les évangélisez pas. Puisqu'ils ne peuvent pas comprendre les Écritures, à quoi ça sert ? Et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que les juifs sont restés dans leur judaïsme. Et puis, bien entendu, après, il y a eu les croisades. Les croisades, dans le nom de Jésus, détruisons-les, donc parmi les nations afin que le nom d'Israël ne soit plus évoqué. La seule alternative est qu'ils adoptent notre foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire notre foi ? Pas la foi biblique, la foi de Rome. Hein ? C'est comme ça qu'après il y a eu le catholicisme, bien entendu, hein ? Qui s'est dévié de la foi originale et qui a adopté le culte de la Vierge, etc. Mais vous voyez, alors la Vierge, les saints et tous... Mais ça, c'était toute une évolution. Et pendant ce temps-là, les Juifs n'étaient pas sauvés. Donc, c'était pas la dernière heure. Bien entendu, c'était pas... il y a 2000 ans, c'était pas le temps du retour du Christ selon la volonté de Dieu. Hein, en fin de compte, Dieu récupère tout. Mais qui en était responsable ? Eh bien, l'Église. L'Église était responsable. Bien entendu, bien plus tard, si vous vous souvenez, Martin Luther, vous connaissez l'histoire, hein, avec son fameux pamphlet, quand il a vu que... Alors lui, il voulait évangéliser les Juifs, mais quand il a vu que c'était un peu tard, hein, après 1400 ans d'antisémitisme chrétien, vous allez dire à un Juif, venez à la foi chrétienne. Il va vous dire, attends, vous nous avez jamais excité à la jalousie, vous nous avez toujours montré de l'antipathie, vous nous avez calomnié, vous nous avez insulté, et puis maintenant vous nous dites, passez à notre foi. Ça ne pouvait pas se faire comme ça. Et donc, ça l'a énervé, il a écrit un pamphlet où il a dit, brûlez les synagogues, l'antisémitisme, revenez. Brûler les synagogues, alors, c'est une bonne façon d'exciter les Juifs à la jalousie, là, hein. Brûler leurs synagogues et empêcher-les de faire du commerce, etc., etc. Il y avait, je ne me rappelle plus combien de points dans son pamphlet. Mais vous voyez, alors Calvin aussi, on croyait qu'il était hors de ça, mais à un moment, il y a une dame, une chrétienne qui lui envoie, alors il y avait des lettres qu'il recevait et c'était des questions et des réponses. Lui, il répondait aux questions. Alors, il lui posait une question sur le peuple juif et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, leur nuque raide de pourriture mérite qu'on les opprime sans fin et sans commune mesure et qu'ils périssent dans leur misère sans que personne ne les prenne en pitié. Voilà. Lui, il a... Et puis... voilà. Donc maintenant, on comprend pourquoi les Juifs ont ce voile. Les Juifs sont bloqués parce qu'il y a eu siècle après siècle après siècle après siècle une propagande, une attaque continuelle contre les Juifs en tant que peuple et contre le judaïsme et... Et donc les Juifs n'étaient pas sauvés. Alors aujourd'hui, on essaie encore de détourner l'Église de son mandat d'origine, qui était d'exciter les Juifs à la jalousie. Et aujourd'hui, il y a d'autres façons plus modernes. Alors, par exemple, il y a la doctrine palestinienne. Hein, on va dire, regardez, on va tout politiser, on va dire, regardez ce que les Juifs font aux Palestiniens, ceci, cela, les pauvres Palestiniens qui n'ont pas d'État, ils sont envahis par le peuple juif, etc. Toute cette polémique-là, ça vient de là-bas, de ces diapos que je vous ai montrés. Parce que la terre occupée par Israël, pardon, la terre est occupée par les Palestiniens. La terre avait été donnée par Dieu aux 12 tribus d'Israël et dans l'avenir, Ézéchiel 47, c'est projeté dans l'avenir, la terre avait été donnée au peuple juif, était donnée au peuple juif. Donc qui occupe la terre ? Les Palestiniens occupent la terre. Mais on a renversé ça. On a dit non. C'est les Israéliens qui occupent la Palestine.
Palestine, ça n'a jamais existé. Palestine dans le plan de Dieu, cherchez, vous ne le trouverez pas. Hein? Peuple palestinien, il n'y a pas. Oui, il y a les Philistins. Philistins et Palestiniens, c'est le même mot en hébreu et en arabe. Alors on comprend que c'est le même esprit. Vous voyez, on continue le même antisémitisme et c'est diabolique. Pourquoi ? Parce que le diable ne veut pas que les Juifs soient sauvés. Si les Juifs sont sauvés, le retour du Christ, ça veut dire quoi pour le diable ? Il est enchaîné pour 1000 ans. Il va pas jouer là-dedans, c'est sûr. Il va essayer à tout faire pour même convaincre des chrétiens sur la théologie du remplacement. Et il va leur dire, bibliquement, il y a des chrétiens qui ont écrit des livres. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre pour répondre à ça. Il va essayer de convaincre les chrétiens que maintenant l'Église remplace Israël. C'est exactement ce qu'avaient dit tous ces grands pères de l'Église. Hein. Par exemple, on va faire le boycott des produits israéliens. Le boycott des produits israéliens. Alors ça aussi, c'est une hypocrisie. Hein. Quelqu'un qui a un pacemaker hein, dans le cœur, allez, boycotte-le. Vas-y, on va voir. Hein? Ou alors tous ces téléphones portables, toute cette électronique, ça provient du peuple juif. C'est des Israéliens qui les ont inventés. Mais on va boycotter les produits israéliens. Alors au supermarché, on va dire. Ne vendez pas des produits israéliens, ne vendez pas des fruits qui viennent d'Israël. Il y a des chanteurs, par exemple, qui veulent venir en Israël, mais le BDS, on appelle ça le BDS, les boycotteurs, il les convainc, non, ne venez pas. Si vous allez en Israël, on va faire une campagne contre vous. Alors, les chanteurs, bien entendu, ils cèdent. Et il y a aussi les attaques contre les soldats israéliens. Par exemple, on va menacer les soldats israéliens quand il a vu, par exemple, l'histoire du Marmara. On va les menacer de les porter en justice internationale. C'est-à-dire qu'ils pourront pas quitter Israël. S'ils quittent Israël, ils se font arrêter, par exemple, en Angleterre ou en France, etc., dans les pays d'Europe. Pourquoi ? Parce que ils sont coupables. Contre les Palestiniens. Mais je peux vous dire que c'est dommage que vous n'ayez pas les véritables informations à la télé. Hein. Parce que ce que font les Palestiniens qui sont menés par le Hamas à Gaza, c'est vraiment incroyable. C'est très cruel. Et d'abord, on envoie les enfants. D'abord, ils envoient les enfants, et puis après, derrière les enfants, ils tirent, ils envoient des cocktails Molotov, etc., etc. Mais d'abord, les enfants, parce qu'ils savent très bien que nous ne pouvons pas tirer sur des enfants. À un certain moment, on n'a pas trop le choix. Hein. Alors, jusqu'à présent, les soldats, vraiment, sont malheureux, parce qu'ils nous disent on ne peut même pas se défendre. On est obligé de lâcher notre position. De venir en arrière et de les laisser venir. Mais on ne peut pas les laisser venir passer la frontière, parce que s'ils passent la frontière, ils vont faire du terrorisme aux civils israéliens. Vous savez, quand ils envoient des roquettes, ils ne visent pas les bases militaires. Hein, ils envoient des roquettes sur les civils. Et le monde, pour le monde, c'est tout à fait normal. Hein. Mais si Israël fait ça, alors là, oh là 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 là. C'est un tollé général dans le monde entier. Donc, on peut se dire, oui, mais alors, donc, on a loupé la venue du Christ, là. Mais seulement, non, parce qu'il y a plusieurs signes qu'on voit qui nous disent, alors, l'esprit de l'Antéchrist, différent d'Antéchrist, il y a aussi l'établissement de l'État d'Israël qui avait été prophétisé dans Isaïe 66, versets 7 à 9. Le retour des Juifs en Israël, prophétisé dans Jérémie 31, versets 7 à 9. Dans Jérémie 16, versets 14 à 16, où là, on parle des pêcheurs d'abord qui vont être envoyés, puis des chasseurs pour faire revenir les Juifs en Israël. Ça, c'est un signe des derniers temps. Et aussi, Isaïe 45, 17, ou alors, comme Paul nous le dit dans Romains 11, 25, le salut des Juifs. Et le salut des Juifs, on voit que ça a recommencé il y a à peu près 40 ans. Ça a recommencé parce qu'il y a eu des chrétiens qui ont écouté la voix de Dieu, qui leur disait, maintenant c'est le temps, c'est la dernière heure. Et je veux que vous commenciez à prier pour le salut des Juifs. Et quand les chrétiens ont commencé, quand les chrétiens ont vu les premiers signes, c'est-à-dire l'État d'Israël né en 1948, il y a des chrétiens, par exemple j'en connais au Japon, qui ont dit, ah, ça veut dire qu'il faut prier pour le salut des Juifs. Et ils ont commencé à prier, ils ont prié, et ça s'est étendu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont prié pour le salut des Juifs, et une quarantaine d'années après ça, on a commencé à voir les premiers Juifs messianiques, les premières assemblées messianiques, et aujourd'hui une centaine d'assemblées messianiques, rien qu'en Israël, il y en a un peu partout dans le monde. Donc, le salut des Juifs a recommencé, et là, les figues sont mûres. C'est un signe des derniers temps qui nous dit le Christ est proche. Le Christ est proche. Et donc, il nous faut contribuer au plan de Dieu. Et ça, le Seigneur nous l'avait déjà montré en filigrane dans certains passages de la Bible. Je veux prendre par exemple... la pêche miraculeuse. Vous vous souvenez qu'il y a deux pêches miraculeuses. Hein. Alors, dans la première, dans Luc 5, le Seigneur les envoie pêcher. Et au verset 6, il jette le filet, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors vous vous souvenez que Jésus, lorsqu'il parlait de pêche, il parlait de pêche d'homme. Hein. Son langage, encore une fois, comme je l'avais dit ce matin, il est codé. Hein. C'est pas une pêche de poissons. Bon, les poissons, ça l'intéressait pas tellement. C'était une pêche d'homme. Pêche d'homme en Israël. Des Juifs. Hein. Donc, la pêche des Juifs, c'était l'évangélisation des Juifs qui reçoivent le Seigneur. Et là, il y a eu une quantité de poissons. Il disait ça, c'était, si vous voulez, prophétique. Et on voyait qu'il y a il y a 2000 ans, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs ont reçu le Seigneur après la résurrection. Comme on l'a dit, l'Église a pris de l'ampleur en Israël. La pêche marchait bien, mais les filets se sont rompus. Et c'est ce qu'on a vu 70 après Jésus-Christ. Les filets se sont rompus. C'est-à-dire que les poissons, l'Église messianique n'a plus existé. Elle a été dispersée. Il y a l'Église de Rome qui s'est implantée avec le catholicisme. Donc, les filets se sont rompus. Et c'est pourquoi ça ne pouvait pas être la dernière heure. Mais après, il les envoie encore une fois, après la résurrection, il va en Galilée, il les voit, et il leur dit encore une fois, allez pêcher. Seconde prophétie. Dans Jean 21. Et dans Jean 21, au verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompait point. Ça, c'est la prophétie de ce qui arrive maintenant. C'est-à-dire, je vous prophétise qu'il y aura encore des poissons juifs qui vont me recevoir dans leur cœur, mais cette fois-ci, le filet ne va pas se rompre. Ça va continuer. Et comme Paul nous le dit dans Romains 11, 25, et tout Israël sera sauvé. et tout Israël sera sauvé. Alors, est-ce que ça veut dire tous les Juifs? Je ne sais pas. C'est tout Israël sera sauvé. Et donc, on voit là, très nettement, que la prophétie nous dit, il y aura un temps où vous verrez le salut des Juifs. Cette fois-ci, les filets ne vont pas se rompre. Et vous saurez, si vous avez du discernement, vous saurez que c'est un signe que j'arrive. J'arrive. Et c'est pourquoi nous essayons d'encourager l'Église à regarder aux signes que le Seigneur nous donne. Et non pas à continuer. Vous savez, il y a beaucoup d'églises, surtout aux États-Unis, bon, sûrement pas en France, hein, qui regardent que leur petit nombril. Hein, la prospérité, tous les messages, c'est être riche, Dieu veut te bénir, il veut te rendre riche, et puis voilà, voilà. Il veut te donner une bonne voiture, il veut te donner une belle maison. Mais c'est pauvre comme évangile, hein, c'est pauvre. Alors que quand on est dans l'esprit et quand on a du discernement, on regarde aux signes et le Seigneur veut nous montrer les signes. Pourquoi? Parce qu'il veut élever une armée d'intercesseurs qui va prier dans le sens de son plan pour le monde. Ça n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour le salut du monde, pour l'établissement de son royaume dans le monde à partir de Jérusalem, pour 1000 ans. Puis après les 1000 ans, le diable est libéré un petit peu, il va essayer de tromper des gens, il va y arriver partiellement, et puis après ça, il est jeté dans le lac de soufre et de feu, et la Jérusalem descend d'en haut, et là, c'est pour l'éternité. Nous y serons pour l'éternité. Donc vous voyez que le plan de Dieu se déroule, il a plusieurs segments, et il faut prier selon le plan de Dieu. Et quand l'Église a cette intelligence spirituelle, eh bien elle prie selon le plan de Dieu, elle ne va pas dire des signes et psys pareils, comme on a vu. Parce que ça voulait dire, les Juifs, c'est fini. C'est ça la théologie du remplacement. Nous, maintenant, nous sommes l'Église. Nous, maintenant, nous sommes Israël. Ça veut dire, ne vous occupez pas des Juifs. Ne vous occupez pas d'Israël. Laissez-les... Mais ça, c'était pas dans le plan de Dieu. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Et d'ailleurs, quand on voit... On lit la Bible avec cette perspective, eh bien, on voit que tout... concourt au plan de Dieu. Par exemple, tout comme on l'a vu, deux pêches miraculeuses, on voit dans Ézéchiel 37, la vallée des eaux desséchées, où Dieu appelle Ézéchiel à prophétiser deux fois. Et au verset 11 aussi, il est écrit, et tous ces eaux-là, c'est la maison d'Israël. Donc il prophétise sur la maison d'Israël, il prophétise sur le peuple juif. Une première fois, et une deuxième fois. Et donc, on voit comment, tout au long de la Bible, on voit en filigrane déjà le salut des Juifs afin que le retour du Seigneur arrive, afin que ce soit véritablement la dernière heure. Et aujourd'hui, si l'Église ouvre les yeux, elle voit, nous sommes dans la dernière heure. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour Israël. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens dans le monde entier qui ont ouvert les yeux et qui viennent en Israël, qui bénissent Israël, qui prient pour Israël, qui savent interpréter ce qui se passe en Israël d'une façon biblique et qui ont une ouverture devant eux, une ouverture spirituelle dans le plan de Dieu, leurs yeux sont ouverts et ils savent comment prier selon le plan de Dieu. Et quand ils prient, Dieu agit. Pourquoi? Parce qu'ils prient selon la volonté de Dieu. Et non pas seulement donne-moi, bénis-moi et mon petit lopin. Hein. Ce sont des véritables intercesseurs que Dieu utilise. Et ce sont ceux-là que Dieu... Vous savez, à un moment, Dieu nous dit, est-ce que vous savez pas que vous jugerez les anges? Ce n'est pas n'importe qui va prendre pour juger les anges. Ce n'est pas celui qui a une courte vue, hein, mais c'est celui vraiment qui discerne le plan de Dieu et qui marche dans le plan de Dieu et qui prie selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et donc, je vous exhorte, je vous encourage à chercher la face du Seigneur concernant Israël. Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez pour Israël? Le rechercher les nouvelles concernant Israël, concernant le corps du Christ en Israël, ce qui se passe dans les assemblées messianiques en Israël. Essayer d'encourager les assemblées messianiques en Israël afin que le corps du Christ se renforce et que vous puissiez manger ces figues mûres et non pas vertes. Voilà, si vous avez des questions ou des questions sur Israël, n'hésitez pas. Allez-y.
Oui, dans un premier temps, restez un peu dans le sujet, parce que sinon on va te garder 4 heures ici. Mais voilà, il y a des questions là.
Dans les différentes prophéties de rétablissement, soit dans Ézéchiel 37 que vous avez cité, bon, c'est la maison d'Israël. En Jérémie, on parle de Juda et Israël. Et ma question est celle-ci. On parle aujourd'hui des Juifs, alors que dans les prophéties de rétablissement, on parle de la maison d'Israël, des royaumes de Juda et d'Israël. Or, le royaume d'Israël, à partir de l'invasion des Assyriens, Israël a disparu. Puisque quand ils ont été déportés, je parle des deux royaumes après, hein, pas le grand Israël. Après le péché de. Après Salomon, il y a eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et donc le royaume d'Israël a disparu quand il y a eu les Assyriens qui les ont déportés. Et donc. Là, par exemple, vous parlez des Juifs. Or, les Juifs sont les descendants du royaume de Juda. Quid de cette partie des descendants d'Israël, donc les 10 tribus qui ont disparu, je dirais.
Écoutez, frère, je vais revenir un peu sur ce que je disais ce matin. Essayez, vous avez des lunettes, hein. Essayez de les changer par des lunettes spirituelles. Et alors là, vous allez comprendre. Parce que si on prend la Bible dans le sens que vous le dites, alors là, on va arriver à des choses où on va plus comprendre. On va se dire, bon, mais dans ces conditions, il n'y a plus de peuple juif. Hein ? Il n'y a plus de peuple juif. Il n'y a plus Israël. Puisque... l'histoire des Assyriens, tout ça, ben, y a eu des recoupements. Donc, mais seulement, Dieu a voulu que le peuple juif soit préservé jusqu'à aujourd'hui et que jusqu'à aujourd'hui, il y ait un État juif. Vous voyez ? Ça, c'est important. Donc, quand on voit cet État juif et on voit qu'il y a un peuple juif dans le monde qui continue selon... les directives de la Bible dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a un peuple juif. Peu importe ce qui est arrivé dans l'histoire, il y a un peuple juif. Et donc, quand on voit dans Ézéchiel 37, on voit cette prophétie, et on sait que c'est une prophétie pour l'avenir, puisque c'est une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée, puisque, bon, si vous voulez, on peut aller un peu dans les détails. Hein. Dans la première partie, il y a un grand bruit. C'est prophétique, le grand bruit, on l'a entendu en 1948, c'était la guerre de 48. Il y a les eaux qui viennent, alors les eaux c'est le peuple juif, la maison d'Israël. Ils viennent l'un à côté de l'autre, hein, ou sur la terre d'Israël, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des vagues de juifs qui sont revenus sur leur terre, la terre qui a été promise à Abraham. et à ses descendants. Donc vous voyez bien que ce qui s'est passé, je dirais même que la réalité de ce qu'on a vu en Israël et de ce qu'on continue à voir confirme la Bible. Donc on voit que il y a eu ça, il y a eu ces eaux qui sont venues, et puis c'est là où Dieu dit à Ézéchiel, mais ils n'ont pas d'esprit. C'est-à-dire, oui, il y a un peuple juif, il y aura un peuple juif, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un peuple juif, mais ils n'ont pas d'esprit. C'est pourquoi il lui dit, prophétise une seconde fois, mais à l'esprit. Ézéchiel prophétise à l'esprit, l'esprit souffle sur ses os, et là, ils deviennent, ils sont nés de nouveau. Donc, vous voyez, c'est pas seulement Juda et Israël, parce qu'il y a, si on part comme ça, alors il y a Juda, il y a Éphraïm aussi, il y a Jacob. Des fois, Israël est appelé Jacob. Donc, comment faire la différence? Moi, je dirais que la différence qu'on peut voir du point de vue spirituel, c'est la différence entre Jacob et Israël. Là, oui, on la voit. Pourquoi? Parce que si vous voyez dans Genèse 32, on voit comment Jacob devient Israël. Jacob devient Israël lorsqu'il rencontre Jésus. Bon, l'ange. On le sait très bien, c'est Jésus. Hein. Il rencontre Jésus, il se bat avec lui, et puis Jésus le blesse, c'est-à-dire lui dit, maintenant, tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit par ta force, c'est le judaïsme qui est cassé, hein, mais tu vas arriver par ta foi. Et c'est là où il lui dit, bénis-moi, il le bénit, et son nom est transformé en Israël. C'est une symbolique du juif qui reçoit le Seigneur, et à la fin du chapitre, le soleil monte sur sa vie. Voilà. C'est la nouvelle naissance. Et c'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 37. C'est ce qu'on voit dans les pêches miraculeuses. Toutes ces choses-là sont prophétiques et nous montrent que le peuple juif va être éclairé, va être illuminé, va avoir une deuxième naissance et qu'il va recevoir Jésus. Donc, bien entendu, si on se dit on va chercher les 12 tribus d'Israël, bon, elles sont perdues. D'ailleurs, elles sont même introuvables pour la bonne raison que dans notre histoire, il y a eu des recoupements, non seulement entre tribus, mais des recoupements entre juifs et non-juifs. Donc c'est impossible de retrouver les tribus d'Israël. Cependant, la Bible nous prophétise bien que dans l'avenir, la terre sera distribuée aux 12 tribus d'Israël, Ézéchiel 47. Et même dans la Nouvelle Jérusalem, il y a les noms des 12 tribus d'Israël sur les portes. Hein? Donc, les 12 tribus d'Israël sont, si vous voulez, ont une signification, je dirais... Je ne veux pas dire spirituel, parce que si je dis spirituel, ça veut dire non-juive. Hein? Non, ça reste juif, mais c'est Dieu qui les connaît. Dieu va connaître, voilà. Ceux-là, ils sont de cette tribu, ceux-là, ils sont de cette tribu. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que chaque tribu a son caractère. Vous vous souvenez que chaque tribu a sa bénédiction. C'est une bénédiction différente pour chaque tribu. Et donc, il va y avoir, selon le caractère de certains juifs, ceux-là sont d'une tribu. Selon la bénédiction de certains juifs, ceux-là appartiennent à cette bénédiction, donc c'est la tribu de Zébulon. Ceux-là ont cette bénédiction, donc ça appartient à la tribu de Manassé ou de Naphtali, par exemple. Nous sommes en Naphtali, à Tibériade. Vous voyez comment il faut... Quand on lit la Bible, il faut faire la part entre le physique, historique et le spirituel. Sinon, on ne va pas pouvoir interpréter les choses des derniers temps. Et quand le Seigneur nous parle, il nous parle toujours avec des lunettes spirituelles. Hein. Tout comme quand il a dit « Avant Abraham, moi je suis hein. ». Si on le prend littéralement, on va dire non, mais attends, il y avait Abraham, Isaac, Jacob. C'est pas possible que toi, Jésus, tu sois avant Abraham et que tu nous dises je suis. Non, ça colle pas. Hein. Donc, je vous encourage à lire la Bible dans l'esprit et à voir où le Seigneur nous mène. Et voyez tous ces attention, là, les pères de l'Église, c'était pas des gens bêtes. Hein. C'était des gens qui avaient quand même une compréhension des Écritures qui était assez profonde. Hein. On parle de Saint Augustin, on parle de gens qui avaient un calibre dans la foi. Mais seulement, ils avaient manqué le message concernant Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils lisaient la Bible d'une façon littérale. Et là, c'est là où ils se plantaient, où ils ne comprenaient pas. Quand on dit, par exemple, ah, l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, c'est pas bon, c'est un Dieu cruel. Alors là, ça veut dire, on n'a pas compris, quoi. On n'a pas compris la Bible spirituellement. La Bible est c'est même pas un livre. La Bible, c'est vivant, hein. C'est vivant tout de suite. Ça parle d'aujourd'hui. Ça parle de demain. C'est un livre qui, c'est une parole vivante. Et c'est quand cette parole est vivante qu'on la communique que les gens sont sauvés. Et d'ailleurs, quand on communique la parole vivante au peuple juif, il va être interpellé. Il va être, bien entendu, ceux qui cherchent. Hein. Il y en a toujours qui ne cherchent pas. Voilà.
Pour prolonger la question, c'est parce qu'il y en a qui disent que, à cause de toutes les tribus qui reviennent, le Seigneur va venir. Quoi. C'est un signe, quoi. Qui retrouve les tribus, effectivement, dans les endroits du monde. Mais voilà, en Inde aussi. Voilà. Voilà. Mais je pense que l'explication spirituelle est. Voilà, couvre un peu plus la compréhension spirituelle plutôt que de chercher les signes parce que sinon on reste un peu trop terre à terre quoi.
Le judaïsme reste vraiment terre à terre.
Et encore une autre question, on ne voudrait pas vous priver d'une question qui vous brûle le même.
Je repose une question par rapport à Zacharie 13, 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Comment vous, en tant que juif messianique, interprétez-vous, comprenez-vous cette...
C'est un passage difficile, hein, difficile à, je dirais, à digérer. Il y a deux écoles. Hein. Il y en a qui croient vraiment que. Alors, il y en a qui. D'abord, il y a deux écoles. Il y en a qui croient que ça va arriver, que deux tiers vont être. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Il y en a qui croient que c'est déjà arrivé. Bon, alors, moi, je crois que ça va arriver, mais comme je l'ai dit encore ce matin. Ou hier, je crois, nous avons la possibilité de changer ça par l'intercession. Nous avons la possibilité. Si on crie à Dieu avec un amour pour le peuple juif, Seigneur et grâce, tout comme Amos le faisait dans le chapitre 7, il a dit, Jacob est si faible, Seigneur, tu peux pas faire ça, Seigneur, Jacob est si faible. Et là, Dieu, il est écrit, Dieu s'est repenti. Dieu a regretté, il a dit, bon, je le ferai pas. Vous voyez, donc, nous pouvons intercéder devant Dieu. Et, bien entendu, ça va pas être facile parce qu'il se peut que Dieu nous dise, oui, mais attends, moi j'ai des arguments. Regarde ce qu'ils font, regarde ceci, regarde cela. Moi, je suis un Dieu de justice. Mais il faudra savoir intercéder avec Dieu, tout comme Moïse, par exemple, qui donnait des arguments devant Dieu. Regarde Dieu, que vont dire les Égyptiens? Alors, et toi, tu as bien promis à Abraham, tu peux pas rompre ta promesse, c'est ton caractère. Et c'est, donc, il discutait avec Dieu. À un moment, Dieu a dit, bon, oui, c'est vrai, c'est convaincant ce que tu me dis là, alors je vais changer de tactique. Mais vous voyez, c'est encore entre les mains des intercesseurs. Donc, ce verset, oui, c'est vrai. Alors, on peut dire, ah, ben, c'est écrit, les deux tiers vont mourir, bon, ben... Tant pis pour eux. Hein? Mais alors là, Dieu va se retourner contre nous. Parce que dans Ézéchiel, il dit, je cherchais un homme qui se tient sur la brèche. Un homme qui se tient sur la brèche. Et il a dit, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé parce que les gens disent, ah, oh, c'est Dieu qui a décidé, bon, mais ça va. Tant que c'est pas moi. Hein? Tant que c'est pas moi, ça va, tout va bien. Mais quand on vient avec le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu, c'est pas d'exterminer de tiers. Il le fait parce que c'est un Dieu de justice. Mais il dit, je cherche quelqu'un qui me retienne, retenez-moi. Et c'est là où des intercesseurs vont se mettre devant Dieu, dans les cendres, dans le jeûne, dans la prière. Ils vont dire, Seigneur, tu ne peux pas faire ça contre ton peuple. Regarde, ton peuple est si faible, etc. Ils vont amener des arguments devant Dieu. Et peut-être que Dieu dira, ben... Dieu dira, ben, ok, ce ne sera pas deux tiers, mais il y aura quand même quelque chose. Voilà, je ne sais pas. Hein. Il y a toujours une porte ouverte pour l'intercession. C'est pourquoi Paul disait, ma prière est qu'il soit sauvé. Ou alors, priez, Dieu sauve-les avant qu'ils soient détruits. Dieu sauve-les. Parce que s'ils sont détruits, ben, ils seront détruits, au moins ils auront le salut. Et ils n'iront pas en enfer.
J'ai l'impression que tu ouvres une autre porte, si je me trompe, pour faire lever des intercesseurs qui dialoguent avec Dieu, alors que je connais une autre école qui est une intercesseur qui proclame des choses et par leur proclamation, ils arrivent à le faire, à produire ce qu'ils proclament. Mais là, c'est plutôt chercher le cœur de Dieu. Pour rentrer, donc là c'est plus une proximité avec Dieu dans l'intercession.
Il y a ça, il y a la proclamation, ça fait partie de l'intercession. Mais attention, il faut que la proclamation soit selon l'esprit et non pas selon la chair. Hein. Si on proclame des choses qui sont bibliques, bon ben ça va, c'est bon. Mais on peut pas proclamer. Moi je peux très bien proclamer demain j'achète une Mercedes. Allez. J'ai proclamé.
Oui. Non, mais je faisais référence à parole de foi. C'est-à-dire, voilà, je crois, et puis donc c'est un peu comme la théologie de la prospérité. C'est-à-dire, je proclame ce que moi j'ai envie, quoi. Non, non, là c'est vraiment chercher le cœur de Dieu, quoi. Tu as une question?
J'étais en Israël il y a quelques années, je sais pas, 8-9 ans, quand toutes les nations on marchait à Jérusalem, et il y a des gens qui étaient par la fenêtre qui étaient contents, enfin des juifs, des israélites, oui, israéliens, et qui étaient contents de voir le monde entier monter chaque année pour les encourager. Mais là... Tu as dit comment il faut rechercher ce qui se passe en Israël. Et comment il faut faire. Attendez. Non, parce que rechercher ce qui se passe en Israël. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand il y a la guerre ou quelque chose en Israël, enfin, on a des chaînes ici. Parce que j'aime bien regarder ce qui se passe en Israël, surtout quand il y a, par exemple, des gens qui donnent des coups de couteau aux soldats, tout ça. Parce que l'information en France, c'est trop. C'est pas. Ça ne me convient pas tellement. Donc, je préfère aller chercher à la source. Mais là, rechercher, est-ce qu'il faut rechercher dans les juifs messianiques enfin.
Il y a des sites internet, non?
D'abord, alors en français, je ne suis pas tellement renseigné. Je sais qu'en anglais, il y a énormément de sources. Jérusalem Post, par exemple, ou en français, peut-être France 24, la chaîne, qui est assez équilibrée là-dessus. Mais
Il y a aussi des lettres, des bulletins de nouvelles qui sont envoyés d'Israël. Il y a des bulletins de nouvelles de plusieurs organisations. Alors, je ne sais pas qui le fait en français. Il faudrait que je fasse des recherches. Mais, par exemple, nous avons un bulletin de nouvelles de notre assemblée où nous donnons des requêtes de prière pour notre assemblée. Mais après, je mets aussi un paragraphe qui s'appelle « Israël » où je donne certaines nouvelles d'Israël que vous n'avez pas dans sur vos écrans de télévision, quoi. Et oui, non, mais je veux dire, ce sont des nouvelles qu'on ne vous dit pas, quoi. Et donc, bon, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, mais ça nous appelle à la prière. Et c'est pour que vous puissiez prier de façon intelligente. Mais je pense qu'il doit y avoir des sites en français où vous pouvez avoir des nouvelles d'Israël. Il faut faire un peu de recherche, hein. Il faut faire un peu de recherche. Mais bien entendu, si vous allez dans les autres sites, ça va être, par exemple, moi, je vois, souvent, je vois la télévision espagnole, sur mon ordinateur, et je vois les informations à la télévision espagnole. Et aux informations, je vois qu'ils montrent les terroristes palestiniens qui manifestent à la bande de Gaza, comme si c'était des manifestants. Mais ils ne montrent pas ce qu'ils font. Ils envoient des ballons explosifs, qu'ils envoient des cocktails Molotov, qu'ils envoient des grenades. Ils ne nous montrent jamais ça. Alors on se dit, oh, regardez, ils manifestent. Les pauvres Palestiniens qui manifestent et puis les soldats israéliens qui leur tirent dessus. Voilà, hein, il faut montrer la vérité.
Juste peut-être un dernier mot. Dans ton église, il y a aussi des Arabes qui se convertissent. Il n'y a pas que des Juifs. Est-ce que ça fait des Arabes, oui, dans l'église?
Oui, nous avons deux familles d'Arabes dans notre assemblée. Mais il y en a. En principe, les Arabes, bien entendu, vont aller dans des assemblées chrétiennes arabes, parce que pour la langue. Mais il y en a qui viennent dans les assemblées messianiques aussi. D'ailleurs, oui. Le 13 octobre, à notre retour, il va y avoir un grand rassemblement en Galilée avec les assemblées de juifs messianiques de Galilée et les assemblées chrétiennes arabes aussi. Donc on va faire un rassemblement ensemble, comme on le fait tous les ans d'ailleurs.
Voilà, vous pourrez encore poser quelques questions en privé. Est-ce que Gilles, tu as un mot d'aspiration, quelque chose que tu veux partager avec l'Assemblée? Je pense qu'on va prier pour les intercesseurs, hein. On a en vue l'ouverture d'une maison de prière, on ne pourra pas le faire parce que les locaux sont pas prêts. Mais justement, un des axes, c'est d'avoir une maison de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouvert à tous les chrétiens, et en particulier mettre la prière sur le peuple juif, quoi. Voilà, donc si on peut prier pour ça, pour que dès maintenant, on puisse déjà mettre en route. Ok, d'accord. La lettre de nouvelles directement. Ok. J'ai demandé à Colette de faire le rapprochement pour que tu prennes les informations, hein, que tu puisses assurer ce lien, effectivement, qu'on puisse avoir les infos. Ok. Une autre pensée? Ok. On va bénir notre frère. Je crois, là, vous allez à Mulhouse et après, il fait continuer à tourner. Très bien. Ouais. Très bien. Très bien, on va prier pour nos frères et sœurs et les bénir dans la bénédiction qu'ils nous ont reçue. Je vous invite à vous lever pour prier. Père, nous te sommes reconnaissants de ce partage, de cet enseignement, de ce cœur qu'il a partagé sur ce sujet tellement important et parfois, Seigneur, voilà, caché et banni depuis tant d'années. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à relever ce défi pour, Seigneur, être cet intercesseur que tu cherches. Seigneur, que nous ne restions pas indifférents, mais que nous puissions relever ce défi et être sur la brèche pour ce peuple. Seigneur, qui engendre en fait aussi toute cette eschatologie, ce temps de la fin et ton retour que nous attendons, Seigneur. Mais Père, que nous puissions être une église qui se lève pour cet enjeu, ce défi, Seigneur, qui touche aussi bien la chrétienté que le judaïsme et le monde entier. Seigneur, merci de nous avoir encore parlé au travers, Seigneur, de notre frère Claude. Te prions de le bénir et de le renouveler, de te faire du bien pendant ces temps encore, Seigneur, béni qu'il va avoir dans notre pays, et de les raccompagner dans leur retour et de les encourager et qu'ils ne baissent pas les bras, mais que, Seigneur, tu les fortifies et que tu les aides dans tous les défis qu'ils ont là-bas. Seigneur, nous te remercions. Bénis aussi Gilles, merci de nous l'avoir amené au milieu de nous. Tu le renouvelles aussi, tu le bénis, Seigneur, dans son ministère. Merci, Père, parce que nous formons un corps et nous voulons, Seigneur, nous bénir les uns les autres dans l'amour de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Raccompagne chacun ce soir et qu'à toi soit toute la gloire et la reconnaissance au nom de Jésus. Amen, amen. Un grand bravo. On applaudit notre frère.